Donc cette deuxième séquence, plutôt une séquence bon, retour d'expérience, témoignage, mais sur l'acceptabilité finalement de ce type de projet qui est un des grands axes aussi quand on parle énergie renouvelable et par conséquent production d'énergie dans les territoires. Peut-être Fabien, du coup, votre retour d'expérience, puisque vous êtes, vous l'avez dit, il y a 4 projets quasiment en service à la coopérative ferme de Figeac. Je crois savoir que c'était peut-être complexe à arriver jusqu'ici. Donc, si vous pouviez nous expliquer un peu.
C'est un long parcours. Quand on a débuté le chemin, on ne pensait pas y passer tant de temps. Oui, c'est vrai, nous, on a embauché l'ingénieur du développement fin 2014, début 2015. Donc, on s'y est attelé comme il faut à ce moment-là. Et les projets sortent juste en ce moment. Donc, c'est vrai que c'est très long. Il y a déjà, ce qui est difficile, c'est passer la première marche. C'est est-ce qu'on sent qu'il y aura peut-être un équilibre économique à trouver, finalement, et le fait de sans trop engager de finances, arriver à faire cette petite étude qui va déboucher sur après, derrière, partir vraiment sur les projets. Donc, c'est rien, mais c'est quand même une phase qui est importante. C'est la genèse de tout, et c'est important d'arriver à gérer ce risque-là. Donc, outre les difficultés techniques, choix techniques des technologies, sur quoi on part, déjà administrativement, c'est quand même quelque chose de très complexe à monter au niveau des autorisations. Donc, c'est quand même quelque chose de lourd comme dossier. Vous parlez aussi d'acceptabilité. Donc là-dessus, on a eu aussi des soucis en local. Dès que ça s'est su un petit peu qu'on allait monter ces projets, on a eu des réactions un petit peu d'opposition. Donc on a dû très rapidement, avant même d'être sûr qu'on allait démarrer les projets, devoir faire de la communication dessus. On a fait donc des rencontres avec les élus, réunions publiques pour expliquer, dédramatiser la chose, parce qu'on entendait vraiment de tout et n'importe quoi. Donc en fait, c'est un peu le problème dans tout ce qui est énergie ou peu importe les projets, mais tout ce qui est un peu nouveau sur des territoires, ça fait peur. Voilà. Donc vraiment, c'est une phase très très compliquée d'arriver à dédramatiser tout ça. Et puis dès qu'on commence à expliquer avec la majorité des gens vraiment ce qu'on veut faire, dans quel but, comment, et bien de suite, ça va mieux. Après, on a toujours un petit pourcentage d'irréductibles qu'on n'arrivera jamais à convaincre, mais ça, faut faire avec, quoi. Faut faire avec, mais c'est ceux-là qui nous amènent au tribunal, qui nous font faire des frais supplémentaires, qui nous font des tracasseries. Et il y a des moments où c'est dur à gérer, notamment dans nos petits territoires ruraux où tout le monde se connaît. Il y a des ambiances pas très bonnes de temps en temps dans les villages, quoi. Mais bon, après, la mise en route se fait, les choses vont se calmer, les procès vont passer, et puis tout va s'apaiser. Mais la nouveauté fait peur, quoi. Vraiment, ça, c'est quelque chose de vraiment important.
Donc vous, votre recommandation là-dessus, c'est vraiment de communiquer dès que possible, essayer de concerter les acteurs du territoire, qu'on parle de riverains, d'associations, etc.
Oui, tout à fait. Oui. Après, on a été pas mal soutenus par la sous-préfecture qui nous avait mis en place un comité de pilotage où on rencontrait à l'époque les opposants potentiels, on va dire, ouais. Qui sont devenus officiels après. Mais vraiment pour mettre sur la table ce qu'on voulait faire, expliquer, et l'État nous a beaucoup aidés dans ce sens-là. Après aussi, on se retrouve finalement avec des gens avec qui on était autour de la table, à expliquer nos projets, à tout partager, à comprendre leur point de vigilance, et à finalement... Ils ont fini un petit peu par tourner leur veste et pour faire de l'opposition systématique, parce que finalement, certaines personnes ont un fonds de commerce qui est l'opposition à toutes sortes de projets. Et c'est quelque chose que j'ai compris à travers ces projets. Et c'est assez dur à vivre d'avoir quelqu'un autour de la table qui est d'accord pour nous aider, nous faire des points de vigilance, toutes ces choses-là, et puis qui font des parutions dans les médias après où ils disent l'inverse. Donc c'est des choses dures à vivre, ça.
Ok, très bien, merci. Vincent, du coup, vous, donc, chez GRDF, vous avez une mission de service public, vous l'avez rappelé. Comment vous accompagnez les porteurs de projets sur ces thématiques?
Alors, c'est un long parcours du combattant. Donc GRDF, effectivement, on les accompagne tout au long de ce grand parcours du combattant. Alors, une fois que le site est construit, on va dire, c'est presque facile. Là, on a une relation contractuelle. On leur fournit un poste d'injection. Là, c'est, on va dire, quasiment facile. Mais sur toute cette phase amont, on les accompagne, effectivement, les porteurs de projets, notamment à travers une plateforme qu'on appelle Projet Méthanisation. C'est une plateforme numérique qui leur apporte tout un tas de services, parmi lesquels des choses toutes simples. Déjà, juste un planning de tout ce qu'il faut faire pour arriver jusqu'à une mise en service. Parce que c'est un truc sur 3-4 ans. On n'arrive pas à le faire tenir sur une feuille plus petite qu'un A0, je pense. C'est impressionnant. Et c'est le premier crible, hein, parce que quand on montre au porteur de projet, ben voilà le planning, ça va durer minimum 3 à 4 ans, 5 ans potentiellement, avec toutes ces étapes-là, des études réglementaires, de la préparation sur des études amont, la sécurisation des aspects financiers, bien évidemment, assurantiels, juridiques, enfin bref. Donc voilà, un planning, on les met potentiellement en relation avec un annuaire de prestataires, donc tous les développeurs, les constructeurs, les bureaux d'études, les cabinets de conseil qui peuvent les accompagner. Ils ont un forum d'échange, ça c'est très important. Tu l'as dit, vous avez fait le tour, vous êtes allé en Allemagne, etc. Mais aujourd'hui, bah, voilà, il faut aller dans sa région, il faut aller faire le tour de Popote pour voir comment les collègues ils ont pu lancer leur projet. Et un des points aussi sur lesquels on peut les orienter, c'est l'ensemble d'aides qui existe, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de soutien, et avec notamment une évolution récente, là, avec une offre de l'ADEME qui vient proposer des aides sur un secteur, je pense qu'ils auraient pu vous aider, c'est sur toutes ces aides amont, sur les études amont, l'ADEME développe maintenant une offre pour soutenir, avancer en plus la trésorerie sur ces aides amont, y compris les études de gisement et les études ou les conseils que pourrait y avoir en communication et appropriation locale. Donc voilà, c'est tout l'ensemble, une partie des services qu'on peut fournir aux porteurs de projets.
Très bien, merci. Fabien, du coup, est-ce que vous avez eu ce soutien justement dont on parle
Au niveau du soutien, on est donc en région Occitanie, donc une région qui est très volontaire sur l'ensemble des énergies renouvelables et donc qui apporte un soutien financier important, et notamment couplé avec l'ADEME. Donc sur nos projets, on est selon les projets, entre 30 et 35% de d'aide sur la construction. Donc c'est vrai que c'est vraiment important ce soutien pour pouvoir monter ces projets, quoi.
Okay. Très bien. Donc on l'a vu, hein, l'acceptabilité de ce type de projet méta, c'est un vaste sujet, on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui, mais je voulais juste mentionner qu'il y avait aussi donc, un groupe de travail acceptabilité du comité stratégique de filière. On ne va peut-être pas rentrer dedans, et puis c'est pas la grosse solution qui l'anime, mais pour dire que voilà, il y a aussi des ambitions de trouver des clés un peu pour faire accepter peut-être plus facilement ce type de projet face à aux ambitions, hein, qu'on a vues depuis le début de cette conférence. Je voulais faire là du coup un petit pas de côté pour repasser sur le solaire. Alors on n'est pas sur le même type d'énergie, mais on a quand même ces sujets un peu de complexité. Nicolas Ferraz, vous avez eu chez Total Energy un projet qui a été validé récemment, enfin accepté. Je vais vous laisser nous en dire plus du coup sur comment ça s'est passé en amont.
Alors, je pense que quelle que soit l'énergie, hein, il y a vraiment cet enjeu de pédagogie. Christian le disait, il faut qu'on communique aussi sur les bénéfices, il faut qu'on donne une certaine transparence là-dessus, parce que les peurs viennent de la méconnaissance. Tout marché innovant, de toute façon, la connaissance se crée au fur et à mesure. Et je pense que plus on pourra la partager, plus derrière on rassurera et plus ça démystifiera. Aussi derrière, et par rapport, juste pour revenir, et que ça soit biogaz ou que ça soit photovoltaïque, c'est la même chose. Il faut faire attention, justement, à avoir une approche assez homogène vis-à-vis du monde agricole, notamment sur le financement. C'est-à-dire que les aides, c'est une pompe d'amorçage. L'intérêt, c'est quand même d'avoir des entités ou des outils qui soient pérennes dans le temps, qui s'équilibrent derrière, et surtout avoir, faut pas oublier que c'est un cycle long, c'est-à-dire la construction, c'est la première étape, c'est long, l'acceptabilité, mais derrière, il faut l'opérer, il faut faire en sorte que ça fonctionne, que ça soit des sites sécurisés, productifs, parce que c'est ça, voire, à la sortie aussi, gérer la fin de vie. D'accord ? Et souvent, dans les énergies renouvelables, on a un petit peu tendance à focaliser sur les premières phases, hein, sur cette phase de développement, et ça, c'est important. Nous, on est un acteur qui développe, qui exploite, qui maintient, qui repower et derrière, qui démantèle. Et ça, on y tient Parce qu'à un moment donné, vous savez, un agriculteur qui fait un champ photovoltaïque ou même une méta, si son partenaire se fait racheter par des fonds extérieurs, si, enfin, n'oublions pas, il a mis à disposition son foncier, il a des fois investi aussi. Faut bien faire attention à ça. C'est-à-dire, faut pas que ça soit un coût ponctuel, mais une vraie stratégie. Et ça, c'est important aussi que ça soit une stratégie où les agriculteurs aient été accompagnés. Donc, il y a un vrai enjeu derrière d'accompagnement. On parle beaucoup d'accompagnement agronomique, qui est une bonne phase, les chambres d'agriculture. Moi, je pense qu'il y a aussi un accompagnement stratégique et économique, parce que derrière, il y a de l'investissement, il y a de la partage de valeur, et ça, il ne faut pas l'oublier. Après, pour citer quelques exemples sur l'acceptabilité, je pense que vous l'avez dit, ces projets doivent s'intégrer dans un territoire. Ça prend du temps. Il y a le normatif, études, ICPE, biodiversité, EPA agricole. Mais je dirais que ça, c'est de la mécanique, ça coûte cher, c'est long, mais c'est de la mécanique, ça se déroule bien, il y a de l'expertise, AgroSolutions en fait beaucoup. Les chambres sont aussi une bonne partie prenante. Je dirais que ce n'est pas le plus simple, mais ça commence à structurer, s'industrialiser. Le plus gros enjeu, c'est l'acceptabilité locale et notamment à les convaincre une usine de méthanisation, non, ce n'est pas obligatoirement odorant parce qu'il y a des process avant de triage, il y a des hangars clos, etc. Que du photovoltaïque, à un moment donné, ça peut s'intégrer dans le paysage. Et que ça se co-construit. Donc, cette phase-là, il ne faut pas la sous-estimer, il faut la structurer. Elle est très coûteuse. C'est des phases de concertation. Hein. Ça peut prendre 2-3 ans. On a quelques sujets qui sont en cours en Côte d'Or que tu connais bien, où on a été jusqu'à créer des démonstrateurs, c'est-à-dire pour pouvoir dire aux gens, à petite échelle, voilà ce que vous allez avoir, voilà ce que ça permet de générer et essayer de convaincre. Donc, ça, c'est une première étape. Deuxième, c'est souvent, vous le savez, dans la concertation, il y a toujours quelque chose un peu d'implicite. C'est soit parce que il faut pas oublier aussi que les agriculteurs qui vont monter dans des projets soit de méta, soit de solaire, mais il y a ceux d'à côté qui auraient peut-être aimé le faire, mais qui peuvent pas le faire à côté, et se dire, ceux-là aussi, il faut qu'ils aient peut-être à un moment donné une part de gâteau. Donc, quand les coopératives s'emparent des sujets, c'est très bien parce que coopérative, c'est quand même une union locale d'agriculteurs. Ça peut être aussi des groupes d'agriculteurs. Et ça, c'est important que ça ne soit pas quelques agriculteurs qui vont porter uniquement des projets de territoire et qu'on doit associer les autres dans ces projets-là. Et troisième chose, c'est associer les riverains. C'est-à-dire, derrière, il y a plein de leviers. Souvent, les riverains, ils disent ça va avoir un impact. En clair, il y a un changement, donc ça m'impacte. En dehors de l'explication, c'est aussi de leur donner une partie des bénéfices derrière. Donc, l'intérêt aussi d'avoir des modèles économiques des centrales de production en faisant du financement participatif, en permettant l'entrée aussi des territoires. Et on parlait de la région Occitanie. Par exemple, la région Occitanie s'est dotée d'une agence qui s'appelle l'AREC, l'agence régionale de l'énergie et qui va rentrer dans les projets. Et c'est un tiers de confiance, c'est un agrégateur aussi d'investissement pour les communautés territoriales. Et ça, ce sont des vrais leviers. Aujourd'hui, nous, on opère à peu près plus de 400 centrales en France. On en a à peu près un millier qui sont en cours. Hein. On va commencer à avoir une production électrique significative. Si on ne fait pas ces concertations-là, si on ne fait pas ces projets préalables, ça ne marchera pas. Et l'exemple que tu parlais, je vois bien, c'est on a été saisi, notamment dans le sud de la France, par des agriculteurs qui, malgré tout leur travail, ont perdu leurs aides, leurs ICHN derrière. Donc, je peux vous dire, dans des territoires reculés, quand vous perdez les ICHN, pour des histoires administratives, derrière. Parce qu'ils se sont dit, OK, on l'a perdu une fois, on va la récupérer, mais on va plutôt essayer de se dire comment on peut générer derrière aussi une source de compensation de ces pertes qui soit durable. Et ce sont ces agriculteurs-là qui sont moteurs d'un territoire pour aller dire on a des terres en déprise, on a des terres non exploitables, valorisons-les, mettons avec du photovoltaïque et de l'agri-PV à côté pour les terres qui soient productives. Ça peut nous générer derrière un complément de revenus. Embarquons les pouvoirs publics, embarquons les parties prenantes et faisons-en un levier durable d'équilibre économique des exploitations et pas uniquement une solution ponctuelle de compensation des aides. Et ça, c'est intéressant.
Merci Nicolas. Merci pour ce témoignage. Je pense qu'on a bien compris que rembarquer toutes les parties prenantes, c'était la base. C'était pas toujours le plus simple et c'était pas toujours non plus pas toujours simple d'avoir des parties prenantes qui soient volontaires. On le voit un peu aussi hein, en fonction des départements. C'est aussi ça qui est compliqué pour des opérateurs nationaux comme vous de connaître la stratégie fine de chaque territoire. Sur cette séquence, on va prendre quelques questions et puis après je conclurai.
Et AgroSolutions, on fait beaucoup justement de l'instant acceptabilité. C'est peut-être la page pub, mais c'est sincère. On travaille beaucoup ensemble, Christian aussi. C'est important aussi d'avoir des sachants du monde agricole. Nous, on est des énergéticiens. Alors, j'ai connu d'autres vies précédemment, mais c'est important aussi d'associer des compétences. Là, on parlait des parties prenantes externes, c'est bien, mais aussi dans la conception des projets. Il faut allier aussi un pool de compétences et il faut que le monde énergétique travaille avec le monde agricole pour réussir ça.
Oui.
Bonjour, ce sera une question pour Monsieur Davico sur vos installations. Voilà. On sait que les installations agrivoltaïques ont eu à leur début pas mal de réticences, de craintes, notamment de perte de foncier agricole et de projets alibis, comme on a pu en voir dans d'autres installations photovoltaïques, notamment des CR, où il y a certains très bons exemples et certains très mauvais. Est-ce que vous voyez d'ores et déjà les fruits un peu de vos premières réussites, donc les premières installations dont vous parliez plus tôt, qui sont des belles réussites dans la pivoine, dans les vignes, s'il me semble? Est-ce que vous voyez déjà les fruits de cette réussite et une amélioration de la réputation entre guillemets des installations agrivoltaïques pour les projets qui se lancent aujourd'hui?
Alors c'est une très bonne question. Les projets alibi nous font encore, parce qu'il y en a encore énormément qui sont en cours et d'autres à venir, donc nous font énormément de tort. Vous parlez des serres, dans certains départements, la majorité des serres n'ont jamais eu ou ne verront jamais de production agricole. Donc on a dû énormément expliquer et prouver qu'on ne faisait pas ça. La solution Ombrea, c'est une solution agronomique. C'est fait pour produire mieux, dans des meilleures conditions, avec une protection. Donc oui, le gros sujet, c'est les projets alibi. Quand il y a des projets qui sortent de cette manière, on est obligé de ramer derrière pour aller convaincre, en disant non, nous, on ne fait pas ça, c'est complètement autre chose. Et pour un projet alibi, il y a 10 bons projets qui vont être mis de côté.
Merci.
Merci beaucoup. Bonjour, Aimé Bosque pour Enerplan, syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Je voulais vous poser la question, alors plutôt aux trois photovoltaïciens de ce côté-là. On voit qu'il y a une très grande diversité des doctrines qui vont être adoptées au niveau local, notamment par les chambres d'agriculture, les DDT, les CDPNAF. CDPNAF qui sont en train de devenir un petit peu un passage obligé, un passage charnière pour l'autorisation des projets. Comment est-ce que, dans le cadre de l'élaboration de vos projets, justement, dans le cadre de cette communication et de cette concertation autour des projets, vous vivez cette grande diversité des doctrines au niveau local?
Allez, je l'apprends. Je la donnerai. Après, la diversité aussi est fonction des territoires. Soyons clairs, on prend le 13 et on va prendre le 21. C'est normal que la doctrine, potentiellement, en tout cas, vis-à-vis de l'impact du monde agricole, soit différent, que l'approche soit différente. Après, ce qu'il faut, c'est que je pense qu'il faut structurer un cadre national qui permette l'émergence, en tout cas sur des points clés. C'est d'ailleurs ce que disait tout à l'heure l'ADEME, c'est fondamental. Déjà, définir de quoi on parle. Entre agrivoltaïsme, entre solutions énergétiques sur foncier agricole, mais où la production n'est pas dominante, déjà de donner ça. Deuxième, de prendre en compte alors, l'aspect agronomique, mais aussi la partie partage de valeur. Je pense que ça, c'est fondamental, notamment derrière. Et que les CDPNAF, le monde agricole, les parties prenantes sont au milieu, tant mieux. Et moi, on pense que c'est vraiment au territoire, moi aussi, d'être moteur là-dessus. Mais en ayant un cadre référentiel, une sensibilisation aux enjeux qui soit faite aussi, c'est-à-dire de savoir de quoi on parle. Mais après, l'application territoriale, oui, c'est un peu plus complexe, c'est sûr. Mais en même temps, l'agriculture, elle est diverse et les territoires, ils ont des besoins différents. Donc, on ne fera pas quelque chose de la même manière dans la Marne que dans le Lot. Voilà. Donc, Voilà, il faut savoir s'y adapter. Il peut y avoir aussi des enjeux d'accélération ou autre. Je pense que, par exemple, sur de la tarification, il peut y avoir des enjeux. Il y a un enjeu derrière, moi, qui est encore plus important, je dirais. C'est, nous sommes sur du foncier agricole. Nous sommes soumis au bail agricole. Aujourd'hui, presque pour faire des projets, ça, par exemple, pourquoi pas demain un fermage agrivoltaïque ? Voilà. Plutôt que d'essayer de trouver une parade par rapport aux bails agricoles et des bails amphithéotiques. Donc, il y a plein de questions à répondre. Il faut aussi prendre en compte que ça se crée. C'est en train de se créer. Donc, il y a de l'émulation. C'est très bien. Il faut des acteurs structurants comme l'ADEME, comme les parties prenantes. Et puis derrière, on s'adaptera. Et il faut vraiment que ça soit au bénéfice du monde agricole, du monde énergétique et des parties prenantes locales.
Bonjour, Thomas Guilbeault, donc CEREOPA, bureau d'études hébergé au sein d'AgroParisTech. Moi, il y a une petite question, c'est quid de produire, que le monde agricole produise de l'énergie pour lui-même ? Parce que là, on parle principalement, corrigez-moi si je me trompe, mais le monde agricole produit de l'énergie pour la société, et c'est super. Mais juste un chiffre, dans les consommations d'énergie sur l'exploitation agricole, il y a les trois quarts, c'est les tracteurs, les machines, etc. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions pour produire de l'énergie renouvelable pour l'énergie de ces tracteurs et de ces machines ? Et comment vous voyez ça ? Bon, très concrètement, je pense notamment à des tracteurs qui tourneraient au biogaz ou des choses comme ça, quoi.
Je pense que je vous prends le début de réponse, puis après vous enchaînerez. Les tracteurs qui roulent au biogaz, effectivement, c'était de la science-fiction pendant longtemps. Maintenant, c'est une réalité. Donc, il y en a une dizaine là, qui sont en test. Tracteur New Holland T6, pour ne pas le nommer, qui est en test chez les agriculteurs méthaniseurs de France. Avec une petite problématique quand même sur les réservoirs, voilà, qui sont un petit peu limités quand il y a besoin d'appel de puissance. Mais voilà, sur un site de méthanisation, pour le besoin, par exemple, d'un chargeur ou ce genre de choses, ça peut être une très bonne idée. Et puis, on espère aussi que l'innovation, l'amélioration technologique va nous permettre d'imaginer, d'augmenter un peu la capacité des réservoirs et d'avoir des solutions vraiment biogénévées pour l'ensemble des machines, pas que pour les tracteurs, du coup, mais pour des ensileuses, enfin bref, voilà, tout l'ensemble du parc agricole. Et après, pour les solutions des autres consommations énergétiques du secteur agricole, il y en a pas mal, notamment sur les bâtiments d'élevage ou ce genre de choses. Et là, la COGÉ peut être une très très bonne solution. Peut-être que Fabien, tu veux en dire un mot.
Non, juste pour compléter, c'est aussi autre chose. Sur la méthanisation, donc, on parlait tout à l'heure du digestat et de la valorisation du digestat. Nous, on estime qu'avec nos projets, on diminuera de 70% les achats d'engrais de synthèse sur nos fermes. Donc, engrais de synthèse, ça veut dire énergie, quoi. Donc, c'est une baisse aussi de l'énergie grâce à ces projets. Et après, pour tout ce qui est matériel, bien sûr que c'est quelque chose qui est dans la tête, qu'on en rêve, mais voilà, on va suivre les évolutions technologiques qui vont permettre de s'adapter à nos fermes, mais c'est vraiment quelque chose d'avenir, je pense.
Et de créer le réseau. Je pense qu'on n'en est qu'au début, c'est-à-dire il y a l'autoconsommation, on l'a vécu avec l'énergie solaire, etc. Ça répond à certains besoins. Ça va être pareil sur le biogaz, et après ça va être aussi de déployer des réseaux. Hein, et c'est comme les bornes électriques, il y aura demain des réseaux de biogaz, après ça va se créer, il faut le temps. Et juste pour rebondir et faire la boucle sur ce qu'avait dit Camille sur les PSE, vous voyez, aujourd'hui, hein, dans le bilan carbone de l'agriculture, une grosse majorité quand même ce sont les engrais. Si on arrive à faire aussi une phase de remplacement grâce au digestat des engrais, derrière ça aura un impact fort. Et n'oublions pas la neutralité carbone aussi visée par les industries agroalimentaires et l'ensemble des sociétés. Et là ça montre bien que une solution énergétique derrière, ça fait tout un domino d'opportunités aussi pour ce monde agricole, et notamment même dans ce cycle carbone. Donc voilà, on en est quasiment à la phase d'après de valorisation.
C'est ça, cycle carbone qu'on étudie de plus en plus. Oui, Fabien.
Juste pour compléter ce que tu dis, par rapport à ça, dans nos groupes, on a des agriculteurs qui sont intéressés pour passer leur ferme en bio, qui sont en réflexion là-dessus. La difficulté avec le bio, c'est le comment apporter au sol ce qu'on retire, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui on compasse par les engrais de synthèse. Et donc le méthaniseur va être un super outil pour ça, pour pouvoir faire des conversions. Donc j'ai des copains dans les groupes qui vont pouvoir faire leurs conversions parce qu'ils apportent la solution pour pouvoir le faire, quoi.
Oui, bon, en complément sur le carbone, savoir, Philippe Amelin, Bioline, savoir si, où est-ce qu'on en est du label bas carbone méthanisation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut répondre.
Bah effectivement, côté GRDF avec la filière, dans le cadre du comité stratégique de filière, il y a un sous-GT, gaz à effet de serre, externalité. Et on a travaillé effectivement sur cette idée, pourquoi pas déposer une méthode label bas carbone, méthanisation. C'est un sujet qu'on est en train de travailler avec la DGEC sur ce sujet. Pour l'instant, ça n'a pas abouti, clairement, pour être tout à fait transparent. Et il se trouve qu'en revanche, le sujet des méthodes label bas carbone foisonne dans le monde agricole. Il y en a de nombreuses qui ont été acceptées en septembre 2021 notamment. Et il se trouve que beaucoup de pratiques associées à la méthanisation sont déjà des leviers identifiés dans les méthodes label bas carbone existantes. Les méthodes label grande culture, par exemple, vous avez le développement des couverts végétaux, vous avez du retour au sol du digesta qui font partie des leviers que vous pouvez activer. Donc voilà, il va falloir qu'on trouve peut-être notre place à travers avec toutes ces méthodes qui se sont déjà déposées, parce que même dans la méthode label bas carbone carbone agri pour les éleveurs aujourd'hui, éleveurs bovins en particulier, il y a aussi un levier lié à la réduction des émissions liées au traitement des effluents d'élevage, principalement notamment vers le levier méthanisation. Donc on doit encore en discuter avec les pouvoirs publics pour voir comment ça s'insère, notamment avec l'ensemble des méthodes et cette galaxie de méthodes label bas carbone qui se développe dans le monde agricole.
Très bien, merci. Plus de questions ?